ce tweet ne parle pas de décroissance. Il parle de diminuer notre consommation énergétique, ce que prônent à peu près tous les experts sérieux et tous les gouvernements européens depuis plusieurs années. Et puis, deux, ce tweet ne dit pas aux citoyennes et citoyens qu'il suffirait à chacun de consommer moins. Non, il parle juste de l'enjeu global de diminuer notre consommation d'énergie. Pour être transparent et honnête, je précise qu'il y avait aussi d'autres réactions bien plus sympathiques et constructives à ce tweet.
La vraie question difficile, c'est qui va consommer moins, parce que ça ne va pas forcément être équitablement réparti, cette diminution.
Et la solution pour consommer moins pour un boulanger comme moi, c'est quoi ?
C'est extrêmement désemparant, parce que perso, j'ai déjà réduit tout ce que je pouvais. Le seul poste noir est le chauffage, et je ne peux pas agir dessus.
De toute évidence, nous récoltons 20 ans d'absence de décision politique dans le domaine énergétique. Depuis 20 ans, le dictat écologique sur la sortie du nucléaire a conduit à un désinvestissement dans cette filière qui nous amène droit dans le mur.
Bien d'accord avec votre constat, monsieur Reusen, mais alors ça veut dire que la RTBF va devoir habituer le public à déconsidérer le PIB comme facteur pertinent et à penser collectivement ce qui doit être produit et ce qui ne le pourra pas.
Le PIB, c'est de l'énergie transformée. 10% d'énergie en moins, c'est 10% de richesse en moins.
Etc. Etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller relire les échanges, ils sont toujours en ligne. Personnellement, j'en retire deux conclusions. Premièrement, que 280 caractères ne permettent pas souvent de mettre toutes les nuances nécessaires et que le message que je souhaitais faire passer n'est pas toujours bien compris. Et puis deuxièmement, que ces questions d'économie d'énergie suscitent énormément d'inquiétude et de colère, en particulier chez ceux qui estiment qu'ils n'ont aucun levier pour réduire individuellement leur consommation, ainsi que chez ceux qui associent diminution d'énergie à décroissance imposée et douloureuse. On pourrait poursuivre sur cet enjeu, ça fera sûrement l'objet d'un prochain numéro du Tournant d'ailleurs, mais là ça me donne surtout envie d'aller plus loin sur ce qu'on attend des journalistes face à cette crise écologique. Même si les critiques sont parfois violentes ou insultantes, cela vaut quand même la peine de les lire et de les écouter et de se demander si nous sommes bien au rendez-vous de la multiplicité des enjeux charriés par cette crise. N'a-t-on pas souvent tendance à cloisonner lutte contre le réchauffement du climat d'un côté et crise sociale de l'autre, à parler juste d'économie d'énergie sans toujours creuser sur ce que ça signifie vraiment à tous les niveaux de la société ? Ou bien en traitant des petits gestes individuels, sans toujours envisager les réponses nécessairement politiques et collectives à ce défi immense. Bref, ce serait quoi un journalisme à la hauteur des enjeux climatiques et environnementaux ? Je propose de commencer notre réflexion en allant regarder ce qui se joue en ce moment côté français. J'ai pris un rendez-vous téléphonique avec Anne-Sophie Novel, qui vit à Bordeaux. Elle est journaliste spécialisée dans l'écologie et l'économie sociale, et elle est professeure de journalisme dans diverses écoles.
Allô ?
Oui, allô, bonjour. Si je l'ai appelée elle, c'est parce qu'elle est à l'origine d'une charte déjà signée par plus de 1500 journalistes francophones. Des Français surtout, mais aussi des Belges, des Suisses, des Québécois. Une charte pour, je cite, un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique.
J'espère que ça s'entend pas trop.
Non, j'ai l'impression. Et la démarche d'écriture de cette charte, initiée donc par Anne-Sophie Novel et une trentaine d'autres journalistes, elle est partie du constat qu'il n'y avait pas de texte aujourd'hui pour baliser le travail journalistique sur ces questions.
On a constaté qu'il n'existait rien jusqu'à maintenant en la matière qui puisse aiguiller une pratique journalistique, comme on le dit, à la hauteur de l'urgence écologique. Et donc, pendant 3 mois, on a activement travaillé sur le texte et puis la mise en place du réseau, finalement, des signataires jusqu'au lancement mi-septembre. Et aujourd'hui, là où je vous parle, on a un peu plus de 1500 journalistes qui ont signé en leur nom propre et 150 rédactions, écoles, syndicats, collectifs qui ont également signé, mais en tant qu'organisation.
Pour les auteurs de la charte, qu'on va prendre le temps de détailler dans un instant, il y a dans les pratiques de la presse aujourd'hui des choix éditoriaux, des façons de travailler qui doivent être remis en question. Par exemple,
Le fait d'avoir une rubrique environnement ou planète et considérer que quand on parle d'écologie, ça doit être uniquement dans cette rubrique-là, pour nous est un problème. On estime que ça a participé à un discours qui a décomplexifié la problématique, qui l'a même dépolitisée. Et quand je dis ça, je pèse les mots. Hein. Chaque mot dans la charte a été longtemps pesé, mais ce sont des problèmes profondément politiques qui en appellent au débat public et à des choix collectifs en vue de défendre l'intérêt général, notre bien commun. Et à force de ne les traiter que par le petit bout de la lorgnette, en ne regardant que, par exemple, les causes du réchauffement climatique ou les conséquences, ou en parlant juste de petites initiatives permettant de lutter contre ça, on ne permet pas au public d'avoir une vision globale de ce qui est en train de se passer. Il est important que les journalistes qui font du journalisme politique ou du journalisme économique ou les autres aient ces notions-là en tête, parce que lorsqu'ils vont faire une interview, lorsqu'ils vont faire un reportage, lorsqu'ils vont questionner une entreprise dans le cadre de leur spécialité journalistique, ils ne peuvent pas faire abstraction de ces réalités-là.
D'où le premier article de cette charte, traiter le climat, le vivant et la justice sociale de manière transversale. Les auteurs estiment que ces sujets sont indissociables, et pourtant Anne-Sophie Novel constate que souvent la question climatique est un peu traitée à part de l'enjeu environnemental.
Là, dans les médias, maintenant, tout le monde parle de climat. Le GIEC a réussi aussi à travers ses rapports. Il y a aussi de nombreux outils qui vulgarisent ces problématiques. Mais on oublie trop souvent que le vivant, l'extinction du vivant, est un problème qui est encore plus important, j'ai envie de dire. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre ne l'est pas, mais juste, si on continue de détruire la nature comme on le fait aujourd'hui, on est juste en train de scier la branche sur laquelle on est assis.
Et pour les auteurs du texte, il en va de même avec les questions sociales.
Les gilets jaunes en France sont aussi nés d'une mesure qui était censée être favorable pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais ça n'a pas du tout été pensé en fonction de la réalité du quotidien d'un grand nombre de personnes.
Pour rappel, c'est l'annonce de l'augmentation de la taxe carbone sur les carburants qui avait poussé fin 2018 des milliers de personnes dans les rues et sur les ronds-points en France, avec des samedis de manifestations parfois très violentes et au final un recul politique.
On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord toute la semaine.
Et donc, politiquement, mais du coup aussi journalistiquement, il s'agit de prendre en compte de manière intégrée les questions d'inégalité et de justice sociale quand on aborde l'enjeu climatique. Ces dernières semaines, il suffisait de voir le tollé suscité par une conférence de presse du Paris Saint-Germain où la question de l'usage par les joueurs de jets privés a été soulevée pour mesurer à quel point imposer à la population des mesures restrictives pour préserver la planète risque d'être totalement imbuvable si demeure l'impression que certains peuvent se permettre, eux, de ne faire aucun effort.
Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
En point 2 de la charte, il est dit aussi que les journalistes doivent faire preuve de pédagogie. On sait que les données scientifiques relatives aux questions écologiques sont souvent complexes. Il est donc nécessaire, dit le texte, d'expliquer les ordres de grandeur et les échelles de temps, d'identifier les liens de cause à effet et de donner des éléments de comparaison. D'ailleurs, un autre point de la charte plaide pour une formation en continu des journalistes tout au long de leur carrière, un droit à la formation essentiel pour assurer une qualité de l'information. Un point intéressant aussi, il me semble, concerne le lexique et les images utilisées. Les auteurs de cette charte, à destination des journalistes, suggèrent d'éviter désormais les images éculées.
Je vais vous dire, réchauffement climatique, les images qui vont vous venir en tête, ça va être une fumée de cheminée autour d'une usine ou un ours blanc sur un morceau de banquise en train de fondre. On a comme ça des associations d'idées et d'images ancrées depuis longtemps en nous, mais qui ne sont pas du tout efficaces pour refléter ce que ça signifie. On va parler sécheresse, bon, peut-être qu'on va juste avoir en tête l'image d'une terre craquelée, alors qu'il y a d'autres représentations. Les menaces, elles sont beaucoup plus directes et proches de nous qu'on ne le croit. Et donc, il est important que ce soit quand on est photographe, iconographe, d'aller chercher des bases de données qui reflètent mieux cette réalité. Mais quand on est journaliste, c'est aussi de faire attention aux termes que l'on emploie, à des formules toutes faites qui parfois ne sont pas du tout adaptées à la réalité.
La charte rappelle aussi que la crise est systémique et qu'un enjeu important pour les journalistes aujourd'hui est de ne pas juste renvoyer les citoyennes et les citoyens à leurs responsabilités individuelles. Et puis, enjeu ultra sensible s'il en est, le point 5 qui incite, je cite, à enquêter sur les origines des bouleversements en cours, questionner le modèle de croissance et ses acteurs économiques, financiers et politiques, ainsi que leur rôle décisif dans la crise écologique. Le mot est lâché. La croissance, sans doute l'enjeu qui suscite le plus de débats passionnés aujourd'hui. Va-t-on vers une croissance verte ou une nécessaire sobriété, jusqu'à une forme de décroissance ? Les mots sont devenus brûlants, tant les polémiques qu'ils suscitent sont parfois violentes. Or, pour Anne-Sophie Novel,
poser ces questions-là, ça ne signifie pas que l'on est un militant. C'est questionner le monde et la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Les scientifiques du GIEC ne rappellent que ça. C'est les activités humaines qui, les premières, provoquent la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc on peut rester aveugle en se disant qu'il ne faut surtout pas critiquer la croissance parce que ce serait un vilain mot que parler de décroissance, mais je pense au contraire qu'il faut poser les questions. Qu'est-ce que la décroissance? Qu'est-ce que ça signifie? Il ne faut pas avoir peur des mots. L'écologie aussi, pour certains, est un terme qui pose problème. Nous-mêmes, au sein du collectif, quand il a fallu qu'on donne un titre à cette charte, on a longtemps débattu du fait de garder uniquement climat ou de mettre écologie, mais voilà, on était nombreux à dire ben non, il faut qu'il y ait le vivant, il faut qu'il y ait la justice sociale, c'est complètement indissociable. Et donc, on voit bien que, ne serait-ce que cette sémantique-là, pose problème et débat.
Et ça s'explique quand même par le fait que le mot « écologie », même si au départ il désigne une science, renvoie le plus souvent dans l'espace politique à un parti. Et que donc, se dire aujourd'hui « journaliste écologique » est quasiment d'office perçu comme une forme d'étiquetage politique, alors qu'il me semble que traiter journalistiquement la question écologique ne signifie aucunement adhérer au projet de société des partis écologistes. Mais continuons encore à parcourir cette charte qui insiste aussi sur un autre point essentiel, la transparence. Dans un contexte de méfiance vis-à-vis des médias, rendre compte de ses méthodes de travail, rappeler le profil exact des experts invités, vérifier s'ils sont bien dans leur domaine de compétences, faire état de potentiels conflits d'intérêts, on sait que le public nous attend au tournant sur ces enjeux et il a parfaitement raison. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le public s'attend à ce que nous soyons parfaits.
On peut très bien être transparent en assumant qu'on n'est pas parfait. J'ai envie de dire, je crois que le public a besoin aussi de ces notions de nuances. On peut dire, voilà, nous sommes en train de faire des efforts, on sait que nous ne sommes pas parfaits, mais on s'est donné un cap, laissez-nous un peu de temps. Enfin, tenir au courant de la démarche que l'on essaye de faire est aussi quelque chose d'intéressant.
La charte insiste également sur un autre enjeu pour les journalistes aujourd'hui, ne pas s'arrêter à une médiatisation des causes et des conséquences de la crise climatique et environnementale, mais de se pencher aussi sur les solutions, les faire connaître et les questionner.
Il ne s'agit pas juste de mettre en avant ce que les Anglais appellent les sweet stories, hein, donc c'est des petits bonbons, quoi, des petites nouvelles, des bonnes nouvelles qui permettraient de se dire bon, bah, c'est bon, il y a de l'espoir. Non, il s'agit de dire voilà, là, on a des solutions qui peuvent faire système, qui sont documentées, qui ont été expérimentées et dont vous pouvez vous emparer. Parce que c'est très important de montrer aussi qu'on n'est pas désemparé.
Le texte, porté par Anne-Sophie Novel et signé désormais par plus de 1500 journalistes, insiste aussi sur la nécessité de déconstruire les discours qui visent à semer le doute dans le public. On sait, aujourd'hui, c'est documenté, que certains grands groupes pétroliers, par exemple, étaient conscients depuis très longtemps des conséquences délétères de la consommation à tout crin des énergies fossiles, mais qu'ils ont eu ces constats et qu'ils ont même mis en œuvre des stratégies pour retarder la prise de conscience. D'ailleurs, cette charte pose aussi la question du financement de la publicité dans les journaux par des entreprises dont les activités sont aujourd'hui jugées nocives pour la planète.
Les questions doivent être posées ouvertement parce que je crois qu'on a un public aujourd'hui averti qui ressent une forme de dissonance cognitive à dire ben, d'un côté j'ai un journal ou un contenu qui m'explique que la situation ne va pas et que notre consommation de pétrole pose problème et derrière on est en train de me vendre des publicités pour acheter le dernier SUV à la mode ou aller me balader à l'autre bout du monde à pas cher quoi. Où est la cohérence en fait? Est-ce que ça fait vraiment sens? Nous on dit juste que dans la mesure du possible, limitons, voire à terme, supprimons ce type de publicité qui, en fait, mise côte à côte avec un contenu journalistique qui explique la situation, peut poser problème.
Un enjeu qui ne fait d'ailleurs pas l'unanimité dans les rédactions. D'autres estimant que l'essentiel est surtout de s'assurer que le financement par la pub ne vienne surtout pas interférer dans les choix rédactionnels et que la liberté journalistique reste bien totale. Enfin, cette charte prône la pratique d'un journalisme qui serait lui-même bas carbone et insiste sur un point qui me semble assez important dans l'écosystème médiatique actuel, cultiver la coopération entre les médias, assurer une forme de solidarité dans le traitement de ces enjeux pour défendre ensemble une pratique journalistique soucieuse de préserver de bonnes conditions de vie sur la Terre. Une question avant de quitter Anne-Sophie Novel. Certes, il y a énormément de journalistes qui ont signé cette charte. Mais du côté des médias, ce sont surtout des médias spécialisés ou alternatifs qui sont signataires, comme Reporter, Blast, 21, Alternative Économique, Mediapart, Bonpote et pas mal d'autres. Par contre, on n'y retrouve pas les grands médias français traditionnels comme Le Monde, Libération, Le Figaro, TF1, France 2, Radio France et d'autres encore. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu signer ?
On a discuté avec eux. On a discuté avec Le Monde, on a discuté avec l'Obs, on a discuté avec TF1, on a discuté avec France TV, avec Radio France. Radio France est venue à la soirée de lancement qu'on a faite à Paris. Alors, pour certains, c'est pas lié à la charte, c'est lié au fait qu'ils ne signent jamais de texte de cette nature venu de l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur leur propre charte et sur leurs propres engagements. Certains n'ont pas signé parce qu'ils ne voulaient pas donner l'impression qu'ils ne faisaient rien. Donc il y avait aussi là des questions plus en termes de posture, en termes de communication. Mais tous ces médias-là, en fait, agissent en interne et se sont lancés dernièrement dans des démarches de formation de leur personnel, de leurs équipes. Et comme je le disais, ils n'ont pas voulu signer la charte, mais ils en ont quand même largement débattu. Et d'ailleurs, pour beaucoup, ils ont dit « Nous ne signerons pas en tant que rédaction ou groupe de presse, mais on n'empêche pas nos journalistes de signer la charte. »
Et vérification faite, on trouve effectivement dans les signatures des journalistes de tous ces médias, parfois même certains de leurs rédacteurs et rédactrices en chef. La liste continue d'ailleurs de s'allonger encore de jour en jour. Côté belge aussi, certains journalistes ont signé cette charte. Et je décide, pour poursuivre cet épisode, d'aller voir l'un d'entre eux.
Bonjour. Oui, bien sûr. Pardon ? J'ai rendez-vous avec
Gilles. Il s'appelle Gilles Toussaint.
Je m'appelle Arnaud
et il traite depuis longtemps les questions environnementales et climatiques pour la Libre Belgique.
Alors, on va dire que je traite l'environnement depuis grosso modo une vingtaine d'années. Au départ, un peu en dilettante parmi d'autres matières. Et puis là, depuis environ 15 ans, 2007-2008 par là. Notamment, j'ai été un peu la principale ouvrière de la rubrique Planète de la Libre Belgique, qui est consacrée à ces questions à la fois climat, développement durable. Et puis, depuis quelques années, on a élargi le spectre à la science et à la santé.
Et Gilles Toussaint a pu voir comment ces thématiques sont montées en puissance au fil des ans.
J'ai envie de dire qu'au début de mon parcours professionnel, quand j'étais au service d'information générale, je faisais déjà un peu d'environnement, qui était un peu le papier du dimanche soir, celui qu'on laissait aux collègues pour boucher le trou dans le journal, ou si un petit pépin, avoir une solution de dépannage. On était très fort sur le thème un peu la nature. Voilà, plus que l'environnement, même si déjà à l'époque, je me rappelle avoir écrit les premiers papiers sur les néonicotinoïdes, sur les espèces invasives, on parlait déjà un peu de climat et de réchauffement. Je dois dire que celui qui m'a un peu éveillé à ça, c'est sans doute comme beaucoup de journalistes en Belgique, Jean-Pascal Van Hipperzel, et aussi à l'époque un ouvrage d'un auteur qui est aujourd'hui connu, qu'il était moins il y a une vingtaine d'années, qui est Jean-Marc Jancovici. Et donc ça a commencé tout doucement à monter en puissance, et puis en 2007, il y a eu une série d'événements. Il y a eu d'abord le quatrième rapport du GIEC qui était, je dirais, celui qui a vraiment tiré le signal d'alarme. Et il y a eu aussi le document d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Donc il y a eu une espèce d'emballement autour de cette question climatique. À ce moment-là, avec un collègue, j'ai proposé que la Libre développe une rubrique environnement dédiée à ces questions-là. Ça a été retenu et ça a même un peu dépassé mes espoirs, puisqu'on a créé la rubrique Planète qui, au départ, était en page 2 et 3 du journal, donc dans une position extrêmement visible. Et qui ça collait un peu aussi à l'air du temps, il faut être honnête, on n'a rien inventé, on a suivi, en Belgique on était un peu pionnier, mais Le Monde faisait déjà ça, Libération avait des pages, d'ailleurs si je ne m'abuse, au Royaume-Uni évidemment, le Guardian, d'autres médias étaient déjà dans cette dynamique, donc on a suivi finalement un peu l'évolution, et aussi l'évolution du sentiment d'urgence des scientifiques qui a commencé à progresser à ce moment-là. Est arrivée la crise économique, donc il y a eu un petit ressac jusque, j'ai envie de dire, 2015, le sommet de Paris, hein, la COP21, avec les premières grandes décisions, le premier accord mondial sur le climat. Donc là, on a de nouveau vu un regain d'intérêt. Et puis, ces dernières années, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, aléatoire. Il y a eu un peu un trou d'air après la COP. Il y a eu l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, qui a eu une influence. Et là, évidemment, ces derniers temps, on est rattrapé en fait par la réalité du changement climatique, puisque jusque-là on parlait beaucoup d'événements à venir. Là, les événements ne sont plus à venir, ils sont concrets. Et donc on sent que la thématique commence à envahir un petit peu tous les domaines de la société, mais de manière encore un peu éparpillée. On ne sait pas trop quoi en faire, d'autant que plus globalement, au-delà du climat, c'est toute la question environnementale qui se pose aujourd'hui, et de l'écologie, c'est la question de la biodiversité, des liens entre nos modes.